Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse d'accueillir aujourd'hui Philippe Hünemann. Philippe est directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dont j'ai eu moi-même jadis l'honneur d'être membre en des temps anciens. Philippe, qui a une triple formation en mathématiques, en histoire des sciences et en philosophie, et qui fut un élève du très regretté Jean Gaillon, travaille depuis longtemps sur la philosophie de la biologie. Ses premiers travaux portaient dans une perspective plutôt phénoménologique sur le concept kantien d'organisme et sur les rapports entre métaphysique et biologie dans le kantisme, tel qu'il s'est développé dans le contexte scientifique de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sujet sur lequel on lui doit deux livres importants, et un volume édité en anglais et un nombre considérable d'articles dans des revues internationales. Bon, cela l'a conduit assez naturellement, je crois, vers des sujets qu'on pourra dire collatéraux, mais bon, pas si sûr que ça, tels que l'émergence de l'histoire naturelle de l'homme et de l'aliénisme à cette époque. Il travaille aussi depuis un certain temps déjà, donc vous vous en doutez, sur les problèmes philosophiques de la théorie de l'évolution, essentiellement concernant les concepts de fonction et d'adaptation, ainsi que sur la nature causale de l'explication par la sélection naturelle. Il a aussi publié sur le concept d'émergence en défendant une version computationnelle liée à l'épistémologie de la simulation. Il est de plus en plus concerné par les problèmes philosophiques posés par l'écologie et engagé dans des projets de recherche internationaux parmi les plus exigeants. Ses intérêts donc récents portent sur l'évolution des niveaux d'individualité et la sélection multiniveaux, la stabilité des écosystèmes, les rapports écologie-évolution, la possibilité d'une nouvelle synthèse évolutive et les rapports développement-hérédité-évolution, de même que toutes les études évolutionnistes tout à fait importantes et intéressantes aujourd'hui sur la coopération et les rapports économie-biologie-évolutive. Je ne sais pas si tu as d'ailleurs des relations avec Michael Kozik. Oui, je crois, vous avez fait un volume.
On a écrit un livre à 6, donc dont Mika et moi, voilà, sur économie et évolution.
Exactement, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Alors, la production scientifique de Philippe est absolument impressionnante. Je ne vais pas donc citer les articles qu'il a publiés dans les meilleures revues, mais simplement plusieurs livres que, pour ma part, je trouve tout à fait passionnants. Et pas seulement dans le domaine réservé des philosophes de la biologie. Récent qui m'a vraiment beaucoup intéressé, Les sociétés du profilage. Un autre livre au titre auquel je vous laisse trouver la réponse, Pourquoi ? Une question pour découvrir le monde, aux éditions Autrement 2020. Bon, également la codirection d'un ouvrage de référence parmi d'autres, mais préfacé par Jean Gaillon, Les mondes darwiniens, qui est une sorte de bible pour tous ceux qui veulent être introduits aux questions les plus récentes. Ouvrage qui a été d'ailleurs traduit en anglais, si je ne m'abuse.
Ouais.
Voilà, ce qui est tellement rare pour les livres écrits initialement en français. Donc, ce qui en dit long sur la qualité des travaux des auteurs réunis dans ce volume. Un autre aussi avec Christophe Bouton, Temps de la nature, nature du temps. Donc, vous imaginez à quel point je suis comme vous impatiente à présent d'écouter Philippe nous instruire sur le si important sujet dont j'ai seulement donné quelques lignes jusqu'à présent dans le cours. Évolution et nature humaine, état des lieux et évaluation critique. Cher Philippe, c'est à toi.
Ouais. Claudine, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette présentation qui m'honore, évidemment. Je vais essayer, ça va être difficile, mais d'être à la hauteur de ce que tu dis et des attentes que tu viens d'exprimer. Je ferai mon possible. Hein. Je vais donc... Alors, j'ai volontairement essayé de... Ça commence mal, hein, d'être bref. Donc, mais je vais pas occuper les deux heures. Et si jamais il y a des choses qui sont vraiment pas claires pour certaines personnes, vous pouvez tout à fait poser des questions. A priori, j'essaye de pas rentrer dans des choses trop techniques. Et puis, de toute façon, je ne suis pas biologiste, je suis philosophe. Mais bon, mais je sais aussi que Claudine vous a bien préparé avec l'essentiel des concepts dont je vais traiter, ainsi qu'avec la littérature dont je vais parler aussi. Donc voilà, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Une petite note personnelle. Je me permets. En fait, il se trouve que la question de la nature humaine, j'en ai pas traité. Mais dans les deux aspects de ma production philosophique, pour ainsi dire, on y touche un petit peu. Non pas moi, mais la littérature que j'ai lue. Alors donc, comme Claudine l'a gentiment rappelé, j'ai passé un certain temps à travailler sur les relations entre Kant et le concept d'organisme et les biologistes à l'époque. Et donc la téléologie que propose Kant pour penser ce que c'est qu'un organisme et comment on doit le penser. Et il se trouve, comme vous savez, que pour Kant, la nature est une chose et l'humain, ou l'être raisonnable fini, en est un peu une autre, c'est-à-dire qu'on ne peut penser l'humain que sur le fond d'une distinction entre la nature et la liberté, hein, laquelle se connaît du point de vue essentiellement pratique. Et juste à titre d'indice, quand Kant parle d'anthropologie, il divise la chose en deux, l'anthropologie naturelle et puis l'anthropologie qu'on lit, qui est l'anthropologie du point de vue pragmatique. La première étant donc ce que la nature fait de l'homme et la seconde, ce qu'il peut faire de sa nature. Moi, j'ai essentiellement travaillé sur la biologie darwinienne et effectivement, la biologie darwinienne, en un mot, est naturaliste, c'est-à-dire elle ne pense pas que, par exemple, la téléologie soit une attitude que celui qui étudie le vivant doit prendre, mais bel et bien quelque chose qui existe, du moins l'apparence de téléologie existe et est produite par la sélection naturelle. Donc on est dans un monde différent. Il se trouve que depuis quelques années, j'essaye un peu de voir ce qu'il peut y avoir comme passerelle ou comme abîme entre ces deux mondes, le monde kantien de la téléologie irréaliste et le monde darwinien de la téléologie réalisée comme sélection naturelle. Mais voilà, c'est le fond de ce que je vais raconter ici. Il se trouve que dans la biologie darwinienne, alors je me suis permis de mettre des images d'abord pour agrémenter le propos, et parfois je réfère immodestement à mon travail, mais aussi parce qu'il y a des énoncés, surtout des arguments que j'ai produits ailleurs et qui sont peut-être un peu lapidaires ici, mais parfois ils sont substanciés dans des textes. Je ne vous propose pas d'aller les lire, mais je le dis. Donc la biologie darwinienne est sans doute l'un des principaux vecteurs de la tentative de naturaliser l'humain et ses propriétés que beaucoup de philosophes estimaient non naturelles, en particulier les propriétés normatives de la vie de l'humain. La naturalisation de l'humain, elle est au fond programmée dès le livre de Darwin, hein, de La filiation de l'homme, hein, The Descent of Man de 1871, et les entreprises de naturalisation darwinienne de l'humain ne se comptent pas dans le champ de la psychologie évolutionniste dont je parlerai, et dans le champ de l'évolution culturelle, dont je parlerai un peu moins, on trouve un certain nombre d'entreprises de naturalisation. Je parlerai un petit peu de la naturalisation des normes telles que plusieurs philosophes à la suite de Millikan, Gretzky ou Dennett ont tenté d'élaborer sur un fond darwinien. Et c'est dans ce contexte qu'effectivement on va essayer de penser ou de repenser la notion de nature humaine Alors, repenser la notion de nature humaine et naturaliser l'humain, ça n'est pas exactement la même chose. Et en une phrase, c'est tout le propos d'aujourd'hui, hein, le fait que c'est un peu différent. Voilà, c'était, comme disent les Américains, le take-home message. Bon, je vais quand même essayer de déplier tout ça. Je vais faire un peu de va-et-vient entre de la philosophie très, certains penseront trop classique, et puis ce dont je viens de parler, à savoir la question de la naturalisation darwinienne, articulée à la question d'une reprise darwinienne de la notion de nature humaine. Je vais commencer par faire quelques distinctions et puis je vais esquisser le programme général darwinien de naturalisation et puis je parlerai de ce qui est le cœur du propos, hein, de pourquoi on a des raisons qui sont à la fois philosophiques très traditionnelles et biologiques très darwiniennes de résister à la notion de nature humaine. Et comme il y a sur ce point un débat dont Claudine vient de me dire qu'elle vous a un peu entretenu et qu'elle vous entretiendra la semaine prochaine entre un certain nombre de philosophes depuis une dizaine d'années, je vais parler de ce débat. Je ne vais pas rentrer dans les détails et refaire les arguments. D'une part, ce serait fastidieux. D'autre part, je vais essayer simplement de poser un certain nombre de choses que je justifierai, mais je ne me situerai pas moi-même dans ce débat. Et puis, vous pourrez assez facilement me situer parce que j'en aurais quand même proposé la circonférence, pour ainsi dire. La conclusion sera, comme annoncé, un scepticisme raisonnable. Donc, je vais partir vraiment du commencement, hein, comme on dit parfois, c'est-à-dire d'Aristote, en tout cas de distinctions fondamentales par lesquelles on pense quand même depuis très longtemps ce qu'il est question de nature. Hein. Donc, comme vous savez, Aristote distingue la nature et la technique. Ça n'est, encore une fois, ça a l'air très éloigné du propos, ça ne l'est pas. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Aristote et les aristotéliciens pensent la nature à travers un certain nombre de distinctions. Une des distinctions principales, c'est entre la nature et la technique. Et elles ont une relation intéressante qui est double. C'est-à-dire que d'un côté, la technique accomplit la nature, hein. Il y a des choses que la nature fait mais mal, par exemple il y a, je sais pas, des animaux qui marchent mal, on leur met des béquilles, hein. Donc c'est le perfectionnement d'une tendance naturelle, et inversement la technique nous permet de penser des concepts naturels. On se rappelle qu'un certain nombre de notions, par exemple la notion de causalité, sont illustrées, et la notion de causalité et la notion de finalité sont similairement illustrées par des exemples qui viennent de la technique, hein, la statue, qui, etc. Ce qui m'amène à un point intéressant qui est que la relation entre technique et nature, certes la technique imite la nature, mais la nature peut être perfectionnée ou accomplie ou menée à sa fin par la technique, ce qui sous-entend que parfois ce qui est naturel n'est pas, étant donné que la nature est orientée vers une fin, n'atteint pas complètement sa fin, ou en d'autres mots, et le terme sera central dans mon propos, est anormal, même si évidemment Aristote n'utilise pas le mot. Alors la deuxième distinction qui est importante justement, c'est la distinction entre le naturel et le normatif. Elle est au filigrane de ces discussions dont je vous parle sur la nature humaine en contexte darwinien. Et alors là, je pense qu'il faut bien voir deux choses. C'est que si d'un côté, et c'est absolument encore une fois central dans l'entreprise de naturalisation, le biologique implique le normatif, hein, c'est-à-dire que pour le dire vraiment très simplement, les concepts par lesquels on parle de biologie, c'est-à-dire par exemple le concept de fonction, ont une dimension normative. Le fait que quelque chose ait une fonction n'implique pas que cette chose remplisse sa fonction. Au contraire, il est logiquement possible que quelque chose, que ce soit par exemple un rein ou des essuie-glaces, ait une fonction sans la remplir, par exemple quand ils sont cassés, entre guillemets. De même, le développement embryogénique est normé, puisque, comme chacun sait, les chiens font des chiens. Les œufs de poulet, pour prendre l'organisme modèle de tout l'embryo du XVIIIe siècle, les œufs de poulet deviennent des poulets adultes. Et donc on distingue le développement normal et le développement tératologique, hein, tératologie dont j'aime bien rappeler que Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, le fils d'Étienne, a été l'un des promoteurs en France. La tératologie, c'est-à-dire l'idée qu'on peut même étudier ce qui est anormal parce qu'il a éventuellement des régularités propres. Mais le point important ici, c'est qu'en physique, on ne dira pas que quelque chose n'est pas normal. Hein. Alors on peut dire, oui, c'est pas normal, par exemple, l'orbite de telle planète, c'est pas normal, mais ça ne veut pas dire que c'est anormal. Ça veut dire que ça ne se comporte pas comme on l'attend sur la base de notre savoir, et c'est un appel à réviser notre savoir. Hein? C'est-à-dire encore que dire que tel phénomène n'est pas normal signifie qu'il existe des lois qu'on ne connaît pas encore qui devraient en rendre compte, et je donne les exemples bien connus de la matière noire, ou de l'énergie noire, ou du corps noir, hein, le rayonnement du corps noir étant ce qui a mis les physiciens sur la voie de la physique quantique dans les années 1910. Mais le point philosophiquement important, c'est cette distinction, encore une fois assez simple, entre lois et normes. Les lois gouvernent les faits, ne sont pas des normes, et donc les lois et ce qui est naturellement légal n'autorisent pas l'illégal. Hein. Ce qui semble illégal, c'est simplement, du moins pour le physicien, ou pour le scientifique en général, ce qui renvoie à des lois inconnues. Le normal, au contraire, appelle l'anormal. S'il y a du normal, il peut y avoir de l'anormal. Alors, le rapport entre naturel et normatif, évidemment, ce serait l'objet de N conférences et volumes. Le petit point que je veux juste rappeler, c'est celui-ci, c'est que si on est minimalement aristotélicien, on souscrit à cette idée encore une fois, ce n'est pas juste une fantaisie d'histoire de la philosophie, cette affaire de minimalement aristotélicien, c'est l'un des enjeux de redéfinir la nature humaine pour des philosophes darwiniens, comme je le dirai à la fin. Donc si on est minimalement aristotélicien, la réponse à « qu'est-ce que X ?», c'est la nature de X. Hein, et cette nature de X, N de X, c'est ce qui rend raison du fait qu'un exemplaire de X est vraiment un X. Dans le « est vraiment », il y a toute la dimension normative. Alors évidemment, nature de X, pour Aristote lui-même, c'était le principe de mouvement, hein, ce qui rend raison du fait que la graine de baobab devient baobab, plus pour nous, mais la logique du concept reste la même. Et ça pose directement la question de qu'est-ce que c'est qu'un X, une graine de baobab, qui ne satisfait pas N de X, ce qui ne donne pas un baobab. Bon. Autrement dit, la question de ce qui ne semble pas se comporter selon sa nature et qui pourtant semble acclassé parmi les items de cette nature. Et alors évidemment, pour Aristote, cette complication de rapport entre nature, technique, etc., il y avait des raisons de penser comment ça marchait. Pour nous, c'est plus complexe. Alors, une manière d'articuler nature et anomalie, c'est... Je le dis à titre de curiosité historique, mais enfin, vous verrez, enfin, si vous tenez jusqu'au bout de l'exposé, ce n'est pas seulement une curiosité historique. C'est des auteurs qui ont pensé qu'il pourrait y avoir des natures individuelles et que donc ce qui semble anormal est contre nature, mais propre à une nature individuelle. Et ici, vous avez toute une tradition dans laquelle en fait s'inscrit l'un des principaux auteurs de cet exposé, qui est David Hull, qui est une tradition concernant en fait le droit de l'homosexualité. Hein, et on doit à Ulrich, Karl Ulrich, juriste allemand, l'une des premières réfutations de l'idée que l'homosexualité serait quelque chose d'anormal, basée sur l'invocation de l'idée que, au fond, l'homosexuel est conforme à sa nature individuelle. Hein, et donc l'opposition entre nature et nature individuelle, elle est importante pour comprendre la grammaire du mot nature, et je cite en passant des recherches dans les années 80-90 sur le gène, entre guillemets, puisque ça ne marche pas, de l'homosexualité, des recherches qui ont souvent été menées par des homosexuels eux-mêmes selon exactement la logique argumentative d'Ulrich. Si c'est mes gènes, si c'est ma nature, alors ne m'embêtez pas. Cette question de l'inclusivité de manière générale, elle est difficile à écarter dès qu'on parle de nature humaine, hein, puisque, comme le reconnaît par exemple Hull dans On Human Nature, dont je parlerai et dont je crois Claudine a parlé, qu'est-ce que faire si la nature humaine c'est être rationnel, que faire des fous, si la nature humaine c'est d'avoir le langage, que faire des muets, si la nature humaine c'est etc. etc. Hein, que faire des enfants, infants, qui ne parlent pas. Alors, un point assez intéressant, c'est que l'inclusivité s'inscrit contre quelque chose qui renvoie à l'histoire d'une notion de nature, qui est une histoire de l'inclusion. Hein. C'est-à-dire qu'on a appelé religion naturelle la religion qui permettait d'inclure les croyants de différentes religions, droit naturel le droit qui embrassait des droits positifs de différentes positivités, lumière naturelle, hein, ce qui est commun à tous les humains et qui n'est même ceux qui n'ont rien reçu de la révélation, etc. Il y a un très, je ne peux que rappeler le travail, Claudine a gentiment rappelé mon intérêt pour l'aliénisme français, je ne peux que rappeler le travail extraordinaire de Gladys Swine sur l'aliénisme français, Pinel, la pratique de l'esprit humain, le fait que l'idée que l'inclusion des aliénés au 19e faisait partie d'un grand projet d'inclusion, par exemple, des sourds-muets, l'abbé de l'épée, etc. Bon, donc c'était le contexte et le fait que la question du rapport entre naturel et normatif va m'animer et je passe donc à la question de la naturalisation en champ darwinien. Deux citations, la seconde archi-connue, la première moins connue. La seconde donc, l'origine de l'homme est maintenant prouvée, la métaphysique doit s'épanouir, celui qui comprend le babouin aura fait plus pour la métaphysique que Locke, c'est dans les carnets. Ça a été cité 10 000 fois, ça pose les choses quant à l'ambition philosophique de Darwin. Hein. Et évidemment, homme babouin, l'argument philosophique derrière, c'est la continuité. C'est l'uniformité de certaines propriétés des primates. Un naturaliste digne de foi qui observait un crabe de rivage en train de creuser son trou jeta quelques coquillages en direction de la cavité. L'un d'eux roula à l'intérieur, trois autres tombèrent à quelques pouces de l'ouverture. 5 minutes plus tard, le crabe sortit le coquillage qui était tombé à l'intérieur, le transporta un pied plus loin. Il remarqua au passage les 3 autres coquillages et estimant sans doute qu'ils étaient susceptibles de rouler aussi à l'intérieur, les transporta jusqu'à l'endroit où il avait déposé le premier. Il serait, je crois, difficile d'établir une distinction entre cet acte et un acte accompli par un homme doué de raison. Hein. C'est un extrait intéressant, d'abord parce que la remarque, le crabe, etc. Ensuite, parce que pour les philosophes de la biologie, la question du rapport entre rationalité et sélection naturelle est aujourd'hui assez centrale. Dans quelle mesure ce qui est sous sélection naturelle n'est-il pas proto-rationnel, pour ainsi dire. Mais ça, je ne vais pas aborder ça maintenant. La naturalisation, donc, c'est au fond quelque chose dont on peut se revendiquer quand on a lu la filiation de l'homme. Descent, c'est filiation, hein, c'est l'ascendance. Enfin, c'est pas les descendants de l'homme, en fait, quand on traduit correctement Descent of Man. Donc là, je renvoie à un livre qui a été fait, édité par Michel Veuil, fait en l'honneur de Jean Gaillon, hein, que Claudine mentionnait, qui était une analyse philosophique d'un certain nombre de thèmes de Descent of Man, voilà, qui est sorti l'an dernier, avec des articles, entre autres, de Michel Veuil, Elliot Sauber, Agathe Ducrest, qui est doctorante chez nous, moi-même, etc. Alors, dans ce livre, Darwin, qui est très gros, Darwin tourne autour de quelques grandes idées. Hein. Premièrement, la sélection sexuelle, c'est-à-dire le choix des femelles et la compétition entre les mâles, explique un certain nombre de caractères sexuels secondaires, explique les différences raciales, explique un certain nombre de particularités éthiques, lesquelles particularités éthiques s'expliquent encore mieux par le ratio entre la compétition intergroupe et la compétition intragroupe. Hein. C'est-à-dire que Darwin dit, au fond, pourquoi y a-t-il des altruistes, qui est aussi une question centrale de la biologie évolutive depuis 50 ans maintenant, techniquement, mathématiquement, empiriquement aussi. Pourquoi y a-t-il des altruistes chez les humains? Au fond, pourquoi la morale est-elle altruiste, c'est-à-dire favorise-t-elle des comportements qui sont bons pour les autres et pas forcément bons pour nous, alors même que la sélection naturelle devrait favoriser les égoïstes? Parce que, répond Darwin, si vous imaginez des groupes dans lesquels il y a beaucoup, surtout des égoïstes, et des groupes dans lesquels il y a surtout des altruistes, ceux où il y a beaucoup d'altruistes, hein, pensez kamikaze si vous voulez, font mieux que ceux où il y a beaucoup d'égoïstes. Ce serait l'explication d'un certain nombre de propriétés morales, et Darwin dit ça serait dans des petits groupes et puis avec la circulation des humains sur Terre, etc., ces dispositions s'élargiraient à l'humanité entière. Cette notion d'élargissement du cercle moral est assez récurrente dans la littérature darwinienne sur l'éthique. Bon, alors ça c'est un exemple d'un livre récent, Darwin's Cathedral, qui développe de manière systématique cette idée de David Sloan Wilson, un des grands partisans de cette idée de la compétition, la sélection comme résultat de l'addition, de la compétition intergroupe et de la compétition intragroupe. Le second livre de Darwin, qui est au centre d'un programme de naturalisation, c'est l'expression des émotions chez les animaux et chez l'homme, qui, systématiquement, étudie les expressions dans certaines conditions ou dans lesquelles on peut supposer des émotions, les expressions de ces émotions, hein, par exemple être perplexe et se gratter la tête, l'expression du dégoût, l'expression de la peur, etc., chez des primates, chez éventuellement des félins et chez les humains. Ces deux livres ont eu une descendance absolument prodigieuse en termes de tentatives de naturalisation de l'humain. Je vous donne deux exemples là, hein, la psychologie évolutionnaire, je dirais indifféremment évolutionniste ou évolutionnaire, parce que c'est fatigant de réfléchir à chaque fois à quel mot. C'est evolutionary. Hein. Avant on disait évolutionniste et puis ça fait pas bien, maintenant on dit évolutionnaire mais c'est un anglicisme. Donc voilà, c'est la vie, il faut choisir entre une erreur ou un anglicisme. Cultural Evolution, mon Mezoudi est un des grands noms de l'évolution culturelle, mais pareil, j'exemplifie, je rentrerai pas dans les détails. Et Dan Dennett, dans l'idée dangereuse, Darwin's Dangerous Idea, traduit, si je me souviens bien, par Pascal Angel, qui s'appelle Darwin est-il dangereux, est une exploration systématique des conséquences de la pensée darwinienne pour des questions philosophiques relatives à l'éthique ou à l'épistémologie, entre autres. Si je reviens aux fondamentaux, comme on dit, le darwinisme tient en deux thèses. La première qui est l'arbre de vie, hein, que vous avez là-haut, c'est les deux dessins archi-connus de Darwin. Il y en a un qui est dans les carnets, l'autre qui est dans l'origine des espèces, hein, qui représente l'arbre de vie. Les espèces dérivant les unes les autres jusqu'à... on ne sait pas, hein, Darwin fait bien attention à ne pas mettre la source. Aujourd'hui, on la connaît, on l'appelle Luca, c'est « Last Unique Common Ancestor ». Et c'est le dernier auquel on peut revenir quand on cherche des ancêtres communs. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas lui-même d'ancêtres, mais on ne peut pas remonter plus haut. Et deuxième thèse absolument fondamentale, la sélection naturelle explique l'adaptation, l'unité et la diversité du vivant. La sélection naturelle, c'est, pour dire très vite, le fait que dans une population d'individus variables, ceux dont les variations héritables contribuent à leur survie et à la reproduction auront tendance à se perpétuer, augmenter en fréquence dans les générations suivantes. L'un des points essentiels ici, c'est que cette sélection naturelle explique l'adaptation. Hein, c'est-à-dire que les variants qui sont le mieux ajustés au milieu font plus de descendants. Leurs descendants eux-mêmes, qui sont variables par définition de la variation, vont avoir... parmi eux des descendants encore plus ajustés au milieu, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez, s'il n'y a pas trop de contraintes, un ajustement optimal au milieu qu'on appelle l'adaptation. Le point philosophique fondamental, c'est que l'adaptation qui requérait depuis très longtemps un créateur, en fait intelligent des espèces, se voit susceptible de recevoir une explication totalement naturelle par un processus totalement naturel qui ne requiert que des variations héritables, un temps relativement long et des populations relativement grandes et évidemment le fait que ces variations contribuent en positif ou en négatif au succès reproductif. Pour détendre l'atmosphère, peut-être vous reconnaissez, en haut c'est les joueurs de pétanque, hein, dont Marcel Pagnol disait que les feuilles des platanes sont grandes pour leur faire de l'ombre. Ça c'est une explication téléologique illusoire. À droite c'est le melon de Bernardin de Saint-Pierre, dont il disait qu'il est prédécoupé par Dieu pour être mangé en famille. Hein. Les pastèques c'est pour les plus grandes familles, c'est plus grand. C'est aussi une explication téléologique illusoire. Et en bas, même si lui-même est en train de plus faire de vieux os, mais c'est l'ours polaire dont vous savez que, dont vous pouvez voir qu'étant blanc, il a de meilleures chances de survie qu'en étant vert fluo, hein, puisqu'il sera plus difficile à repérer pour ses proies. Et l'ajustement entre la couleur de l'ours blanc et la banquise est, elle, le résultat de la sélection naturelle. À la différence, hein, encore une fois, du melon. Et donc, la sélection naturelle permet le concept, hein, de faire le départ entre les explications téléologiques totalement illusoires et les explications téléologiques bien fondées, puisqu'elles relèvent d'un processus naturel qui est la sélection naturelle, dont les conditions sont la variation héritable, le fait que les variations fassent des différences sur le succès reproductif, toutes choses qui sont empiriquement attestables. Le dessin en noir et blanc, c'est tiré du livre de Darwin sur les orchidées, qui est une application, plus que ça, mais en tout cas notable, de l'évolution par sélection naturelle, puisqu'il prend toutes les familles d'orchidées, il explique dans quelle mesure les phénotypes, les formes des orchidées s'expliquent par le fait que ces formes contribuent au système extrêmement subtil de reproduction de l'orchidée via les pollinisateurs. C'est pas absolument central dans mon propos, en fait, et c'est là qu'on voit que c'est un propos philosophique, mais il se trouve que, évidemment, Darwin, c'est ancien, et que les évolutionnistes aujourd'hui travaillent dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, dont les historiens débattent encore des frontières temporelles, mais en tout cas, ça a commencé vers 44 et ça s'est terminé vers 65, l'élaboration de la théorie. Et quand on veut la résumer, là par contre ça va vite, c'est la synthèse de l'hérédité mendélienne, de la génétique mendélienne, hein, l'hérédité c'est des gènes, et de la théorie darwinienne de l'évolution par sélection naturelle. Les deux thèses darwiniennes donnent deux clauses fondamentales de toute naturalisation. D'une part, dans la mesure où vous avez une parenté phylogénétique entre espèces, l'humain doit partager de nombreuses propriétés avec ses parents. Enfin, avec les espèces ancestrales. Moi, avec ses parents aussi, hein, je préfère, mais avec les espèces ancestrales. C'est ce qui est le message fondamental du livre sur l'expression des émotions. Et le second point, c'est que la sélection naturelle est l'explication majeure de l'arbre de vie, de l'adaptation, de la biodiversité. Et donc, la sélection naturelle explique nécessairement des propriétés humaines, c'est ce qu'on trouve dans la descendance de l'homme, la sélection sexuelle, la compétition intra-groupe explique l'éthique, explique les relations entre les hommes et les femmes, explique les différences entre les tribus. Et c'est ce dont hérite le programme aujourd'hui dit de psychologie évolutionniste, j'en dirai 2-3 mots après. Comme programme philosophique, le naturalisme darwinien fait un certain nombre de choses. Celles qui vont m'intéresser ici, et en rapport avec ce que je disais au départ, c'est comment naturaliser les normes. Alors, il y a plusieurs sous-programmes de naturalisation de normes. Le premier, qui est ce qu'on appelle l'éthique évolutionniste. Le second, l'épistémologie évolutionniste. Le troisième, la téléosémantique évolutionniste. Non, enfin, la téléosémantique tout court. Et, encore une fois, c'est pour vous donner l'idée de ce type d'approche philosophique. Alors, bien sûr, je vous donnerai tous les détails si vous posez des questions, si j'en suis capable. Mais en gros, c'est pour vous donner une idée de qu'est-ce qui se passe avec la sélection naturelle et le darwinisme quant aux normes. Alors, pour les normes, effectivement, je vais laisser ça un petit peu de côté, mais en contexte contemporain, vous avez une approche des normes comme des équilibres dans un jeu évolutionnaire, hein, c'est-à-dire que les normes, au fond, peuvent être conçues comme des conventions. Les conventions sont des équilibres dans des jeux. Rouler à droite, c'est un équilibre dans le jeu code de la route, hein, parce que dans ce jeu-là, ceux qui roulent à gauche perdent si assez de gens roulent surtout à droite. Ces travaux s'appuient sur les conventions de David Lewis et déployés de manière évolutionnaire par Brian Skerms dans, par exemple, Signs ou dans The Social Contract ou dans un certain nombre de livres qui appliquent des modèles de théorie des jeux évolutionnaires, donc c'est vraiment de la technique de théorie de l'évolution, hein, aux normes conçues comme des équilibres. Mais les deux choses qui m'intéressent ici, c'est plutôt l'explication, même s'il y a un overlap entre tout ça, hein, l'explication des normes éthiques via l'altruisme et naturalisé, et surtout l'explication des normes épistémiques via ce qui s'appelle la téléosémantique. Alors, sur la vérité comme norme, hein, ou la voie à vérité ou le savoir comme norme de la croyance, hein, donc la vérité étant une norme épistémique, la vérité et la fausseté n'étant pas symétriques quant à la croyance et normant la croyance, hein, comme les épistémologues le disent, la question se pose de savoir comment, au fond, la vérité comme norme pourrait émerger de l'évolution. Alors, Dennett en parle beaucoup. Je vais en parler dans 2 minutes avec la téléosémantique. Je rappelle le livre de Dan Sperber et Hugo Mercier qui s'appelle L'énigme de la raison, là, depuis 2020, qui est une grande généalogie darwinienne de la raison. Donc, conçue en termes de résultat d'un processus sélectif pour l'avantage dans les discussions, dans des situations de compétition entre individus qui échangent des informations, pour dire très vite. Les normes éthiques, alors je donne la dernière référence en date, c'est un handbook, un Cambridge Handbook, édité par Michael Ruse et Bob Richards. Et Michael Ruse et Bob Richards sont deux très grands connaisseurs de... alors Michael Ruse est mort très récemment, mais c'est deux très grands connaisseurs de Darwin, historien et philosophe tous les deux. C'est aussi les deux auteurs des principaux textes de, d'éthique évolutionniste dans les années 80. Pour l'éthique évolutionniste se base sur l'idée que à partir du moment où l'altruisme, c'est-à-dire faire des choses bonnes pour les autres et pas forcément bonnes pour soi, à partir du moment où l'altruiste évolue dans des populations sous des conditions assez peu drastiques, en fait. Hein, vous avez dans beaucoup de, par exemple, de mammifères qui vivent en groupe, des guetteurs. Hein, vous avez des comportements de guet, c'est-à-dire des individus qui donnent l'alerte devant le prédateur au lieu de fuir, ce qui est typiquement altruiste. Donc il y a toute une littérature d'explication de ces comportements. L'idée, c'est que des comportements implémentant le bien du groupe vont émerger sous sélection naturelle. Et donc, disent les éthiciens évolutionnistes, l'explication des normes éthiques doit reposer sur l'explication des comportements altruistes dans les espèces parentes. Alors, il y a évidemment plusieurs perspectives, il y a plusieurs manières de faire, mais le cœur de l'approche, c'est qu'à partir du moment où vous montrez que la sélection naturelle produit de l'altruisme naturellement, l'ensemble des prestations éthiques, hein, sentiment de culpabilité, punition des non-éthiques, promotion de certains comportements, croyance qu'ils sont bons, etc., peut s'enraciner dans le développement d'un éthos altruiste qui, lui, s'explique de manière parfaitement naturaliste. Alors, pour ce qui est des normes épistémiques, il y a toute une dimension de la philosophie de l'esprit contemporaine qui a été influencée par ce qu'on appelle la téléosémantique. Et c'est quoi la téléosémantique ? Au fond, je vous disais tout à l'heure, la sélection naturelle a naturalisé les énoncés finalistes et téléologiques. On ne dira pas que l'ours a été fait par Dieu pour ne pas être vu. On va dire que son pelage résulte de la sélection naturelle car il maximise ses chances de survie. De même, on ne dira pas que le rein a été fait par Dieu pour éliminer des toxines. On dira que l'évolution du rein l'a favorisé parce qu'il permettait à ses porteurs d'éliminer les toxines. Ce qui veut dire directement que l'énoncé, la fonction du rein est d'éliminer les toxines, qui est un énoncé téléologique, téléologique au sens très précis, où l'effet du rein, éliminer les toxines, explique la présence du rein. L'énoncé fonctionnel, le rein a pour fonction d'éliminer les toxines, veut dire, c'est une analyse conceptuelle, veut dire le rein a été sélectionné pour éliminer les toxines. Alors s'il y a des biologistes dans la salle, vous ne pouvez pas tomber de votre chaise parce que vous êtes assis, mais évidemment l'exemple est effrayant de simplisme. Mais la logique de l'analyse conceptuelle, en effet, c'est celle-ci. Hein, c'est que X à la fonction Y signifie X a été sélectionné pour la raison qu'il fait Y. Ça pose énormément de problèmes philosophiques sur lesquels pas mal de collègues et moi-même avons planché à une époque. Mais le cœur du message, c'est vraiment l'idée que les fonctions ne sont pas quelque chose dans notre tête que nous applique, par exemple, parmi tous les effets du rein, nous appelons fonction celui qui nous intéresse. Et l'effet que le rein permet à son porteur ou souvent à des gens qui connaissent son porteur de s'enrichir par la vente est un effet qui n'est pas la fonction du rein. Mais la fonction n'est pas dans notre tête, la fonction du rein est réellement l'élimination des toxines. Pourquoi ? Parce que la fonction du rein est d'éliminer les toxines. La phrase décrit un processus naturel qui a eu lieu pendant N générations, qui est l'évolution du rein, et qui fait partie de l'évolution des vertébrés, évidemment. Et donc, dans ces conditions, puisque les fonctions sont des concepts normatifs, avoir une fonction logiquement suppose qu'on peut dysfonctionner, et qu'on a naturalisé le concept de fonction, on a naturalisé une première norme, la norme fonctionnelle. Hein. Donc c'est effectivement la portée de cette théorie des énoncés fonctionnels et des concepts de fonction est quand même philosophiquement forte, puisque ça ouvre la porte vers la naturalisation des normes. Par exemple, ça ouvre la porte vers la naturalisation de la représentation ou de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est un état, ou la représentation, pour dire vite, hein, c'est un état mental qui représente le monde. Et donc, par définition, la représentation a une charge normative, c'est-à-dire que si X représente le monde, par exemple, X est une image du monde, X peut être une fausse image du monde, peut être une vraie image, une fausse image. Donc, il y a quelque chose de normatif là-dedans. Si je dis X a pour fonction de covarier avec les états Y du monde, hein, c'est-à-dire, par exemple, état sombre, couleur sombre dans la tête, état clair, couleur claire dans la tête pour simplifier beaucoup. On peut évidemment imaginer des cas où la fonction n'est pas remplie, de même que parfois la fonction du rein, le rein n'élimine pas les toxines. Donc on a rendu compte, dans les grandes lignes, hein, de la normativité de la représentation. Hein. On voit ici que les philosophes contemporains ont pu s'appuyer sur le darwinisme et donc l'analyse conceptuelle du concept de fonction pour produire une naturalisation des normes épistémiques. Alors, sur les normes éthiques, je vais aller un peu plus vite parce que je vous en ai parlé. Ce que je vous ai raconté sur le ratio de la compétition intergroupe versus compétition intragroupe qui permet de sélectionner les plus altruistes dans chaque groupe, c'est une très bonne théorie, qui était d'ailleurs celle de Darwin, mais qui a été mathématisée de manière quand même assez systématique, qui permet effectivement d'expliquer l'altruisme chez les animaux. À partir de là, on peut en effet penser que, comme Darwin le pensait, hein, l'éthique peut être une propriété naturelle. L'approche naturaliste de l'humain, elle a été systématisée dans deux traditions, ou une tradition qui en a donné une autre, la sociobiologie, qui est très exactement la science des comportements sociaux des animaux, donc en particulier des comportements altruistes. Et dans la sociobiologie, on s'est beaucoup centré sur les comportements, alors soit les comportements reproductifs, soit les comportements par définition sociaux, c'est-à-dire de coopération ou de manipulation, hein, et soit les comportements intrafamiliaux. Hein, alors la sociobiologie a donné lieu à tout un tas de controverses que je n'ai pas envie de rappeler parce que ce serait long. Comme vous, sans doute vous savez, elle sort du livre de Wilson Social Biology, qui est un livre de biologie évolutive des comportements sociaux des animaux, en grande partie des insectes. Il y a 60 pages sur l'humain, dû très probablement au fait que quand vous êtes un grand biologiste comme Wilson, à l'apogée de votre carrière, si vous écrivez un livre de biologie de 600 pages, c'est bien de rajouter un chapitre sur l'humain, ça fait sérieux. Manque de chance pour lui, ce chapitre a déclenché les passions puisqu'il s'est fait attaquer, traité de raciste, de sexiste, de tout ce que vous voulez, parce qu'il donnait l'impression, ce qui est un peu critiquable, de traiter les êtres humains comme les fourmis. Ne pas faire chez vous. Donc, la psychologie évolutionniste, c'est à partir des années 80, cette discipline qui prend le relais de la sociobiologie et qui va, comme le disent ses fondateurs, s'intéresser non pas au comportement humain, mais à la cognition humaine. Et la thèse est extrêmement simple, la cognition humaine est une somme d'adaptation à l'environnement de l'hominisation. Alors il y a énormément de travaux, beaucoup sont sur les comportements reproducteurs, mate choice, etc. Vous avez beaucoup de travaux aussi sur les comportements sociaux, pour une raison extrêmement simple, c'est que lors de l'hominisation, tous les biologistes évolutionnistes s'accordent à penser que lors de l'hominisation, les environnements les plus importants étaient des environnements sociaux. Hein. Et donc, par exemple, dans la psychologie évolutionniste, vous trouverez la thèse du commérage. Hein. L'origine du langage, c'est le commérage. En effet, si vous avez des informations sur la vie sexuelle des grands de ce monde, enfin des grands de la tribu, C'est très important, ça vous évite par exemple de draguer la femme du chef et de se faire décapiter. Et donc le langage était un bon moyen de faire circuler ces informations. C'est la thèse du « Gossip as origin of language » défendue par Robin Dunbar, et c'est pris très au sérieux. Hein. Voilà. Donc, ça fait partie de la psychologie évolutionniste. Bon, je ne veux pas en parler trop longtemps parce que j'ai d'autres choses à dire. Et que, voilà. Mais la psychologie évolutionniste est adaptationniste, c'est-à-dire qu'elle part de l'idée qu'on doit expliquer l'ensemble des traits humains ce pourquoi ils ont été sélectionnés, et elle est modulariste, c'est-à-dire qu'elle pense que, à la différence de beaucoup de cognitivistes comme Jerry Fodor par exemple, elle pense que les dispositions cognitives humaines ont été sélectionnées pour faire une chose et pas des choses en général. Donc typiquement, hein, si vous, je vais pas vous faire l'expérience, mais vous regardez par exemple 10 photos, ensuite mettez les photos à l'envers. Ben, si vous mettez les photos la tête en bas, en effet, vous aurez du mal à reconnaître les gens, sauf si c'est vos enfants. Et pourquoi, disent les psychologues évolutionnistes? Parce que nous avons un appareil à reconnaissance de visage, pas à reconnaissance de forme. Si c'était juste à reconnaissance de forme, on reconnaîtrait on reconnaît une poire la tête en bas, hein, donc on reconnaîtrait les visages des gens la tête en bas. Les cognitivistes disent on a un module général de reconnaissance de forme. Les évolutionnistes disent on a un module de reconnaissance des visages humains. C'est pour ça, par exemple, qu'on est très mauvais pour reconnaître les vaches. Hein. Des fois, vous prenez une vache pour une autre, c'est banal. Vous prenez rarement votre fils pour votre épicier, c'est moins banal. Parce que vous avez ce module. Donc, modulariste, adaptationniste, c'est la psychologie évolutionniste. Peut-on à partir de là penser une nature humaine? Alors je vais un peu, je parle beaucoup, mon Dieu. Je vais un peu ramasser mon propos. Il y a un certain nombre d'arguments contre l'idée de la nature humaine. Il y en a qui sont très classiques, hein, Rousseau, Kant, Hegel, Marx. Donc je les passe. Il y a de fortes chances que vous les connaissiez mieux que moi, hein, qui disent qu'au fond l'homme n'est comme Kant, hein, l'homme n'est pas que nature. Et si on va jusqu'à Marx, on va dire la nature de l'homme, c'est de d'affronter, de nier la nature. Hein, ça s'appelle le travail ou justement bah, la technique. Hein. La naturalisation humaine, et c'est ça mon point, pardon, darwinienne, n'implique pas le concept de nature humaine. Alors, je vais m'appuyer sur ce que Claudine racontait, j'imagine, aujourd'hui, et en tout cas la semaine dernière, c'est-à-dire sur la notion d'espèce. Ce qui me semble très intéressant, c'est que quand on vient, comme moi d'ailleurs, de la philosophie classique, on est très habitué à l'idée qu'il n'y a pas de nature humaine, c'est un mauvais concept. Hein. Kant, Hegel, Marx, jusqu'à Husserl et aux existentialistes, l'homme est ce qu'il se fait, pas ce qu'il est, il n'a pas d'essence, et ainsi de suite. L'ensemble des critiques d'une notion de nature humaine qu'on va voir à l'instant viennent non pas de la philosophie, non pas des sciences humaines, mais de la biologie. Alors, elles viennent en particulier de la notion d'espèce et effectivement de la récusation de la typologie ou de l'essentialisme qui est ce que Ernst Mayr, grand architecte de la théorie synthétique de l'évolution, attribue comme propriété épistémique essentielle au darwinisme. Ça veut dire quoi? Alors, Ernst Mayr est biologiste, c'est un immense biologiste, les contributions sont majeures, etc. Il n'est pas philosophe, ça veut dire que la différence entre essentialisme et typologie n'est pas extrêmement claire quand vous lisez Ernst Mayr. C'est une différence philosophique. En tout cas, quand on est darwinien, dans une espèce, la variation vient d'abord. Donc là, une espèce, c'est un ensemble de variants et non pas des copies plus ou moins variables d'un type. La variation est première, épistémiquement première, et historiquement ou ontologiquement première. Si vous prenez mes girafes, là, puisque tout cours de biologie qui se respecte parle de Lamarck, girafe et Darwin, bah, mes girafes, ce n'est pas des copies du type de la girafe, c'est simplement des individus variants. Alors, quand vous les agrégez statistiquement, en effet, la taille moyenne va dépasser la taille du chimpanzé, mais il n'y a pas de type girafe. De cela, Ernst Mayr sort le concept biologique d'espèce, qui est d'ailleurs historiquement une reformulation du concept que proposait Buffon au XVIIIe siècle, quand on a commencé à se poser beaucoup de questions sur le rapport entre espèce, variété, genre. Buffon était naturaliste, ces questions l'intéressaient. Pour Buffon, une espèce, c'est un ensemble d'individus susceptibles de se reproduire, hein, mais dont les descendants sont féconds, hein, sinon jurisprudence Mulet, ça ne marche pas. C'est mulet, âne, cheval, il n'est pas fécond. Bon, donc c'est deux espèces différentes. Mais pour Mère, ce point-là vient très directement de la distinction entre pensée populationnelle et pensée typologique. Si vous pensez en termes typologiques, une espèce, c'est des copies plus ou moins ratées du type. Donc tout le monde se ressemble. Si vous pensez en termes populationnels, la ressemblance n'est pas épistémiquement incluse dans le concept d'espèce. Qu'est-ce qui va faire qu'on peut reconnaître que des individus sont dans une espèce et se reproduisent entre eux? Donc, ça va? Il y a des gens pour qui c'est pas clair ou... Bon, ok. Donc la ressemblance ne suffit pas à définir l'espèce. Souvent, l'interreproduction va avec l'espèce. Souvent, pas du tout. Hein, c'est facile. Alors, effectivement, on est tous biaisés parce qu'on est des humains. Et donc, on pense en termes de kangourous, vaches, castors, etc. Si vous prenez beaucoup d'espèces d'insectes, la femelle fait 5 fois la taille du mâle. Donc, pour la ressemblance, on repassera quand même. Mais c'est la même espèce. Hein, évidemment, puisque par définition, ils peuvent se reproduire, mâle, femelle. Donc la ressemblance ne suffit pas à définir l'espèce, la réalisation de propriétés communes ne justifie pas l'appartenance à une même espèce, l'absence de propriétés communes ne récuse pas l'appartenance à une même espèce. Autrement dit, il n'y a pas de propriété individuelle intrinsèque qui serait condition nécessaire et suffisante pour appartenir à une espèce. Et alors là je cite le texte de David Hull qui s'appelle « On Human Nature », qui est sa récusation du concept de nature humaine, qui part par une longue réflexion sur ce que c'est qu'une espèce. Hein, il dit... Je cite juste la fin. Variation as such, donc la variation n'est pas une caractéristique accidentelle de l'espèce biologique. Sans la variation, l'évolution s'arrêterait directement. Quelles variations ont lieu caractérise une espèce pactique quelle variation caractérise une espèce? C'est une question qui est accidentelle jusqu'à un certain point, ça dépend de l'histoire de cette espèce. Que la variation caractérise l'espèce, le concept d'espèce en tant que tel, n'est pas accidentel. Ça fait partie de la notion même d'espèce. Et alors, Hull va tirer toutes les conséquences de ça, et Hull pense dans un cadre qui n'est plus exactement le cadre de Ernst Mayr, qui est ce qui s'appelle la systématique phylogénétique ou le cladisme, qui est une révolution dans la manière de penser la classification. Hein. Alors ça sort du livre de Willy Hennig qui s'appelle Systématique phylogénétique en 64. Alors Hennig appelle clade l'ensemble d'un taxon, une espèce, un genre, peu importe, et tous ses descendants. Et le cladisme va proposer une thèse qui est quand même une thèse philosophique, une réponse à la question qu'on appelle parfois les natural kinds, les genres naturels, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un bon groupe, un bon groupe de choses. Hein. Vous êtes tout à fait conscient ici que, par exemple, Donald Trump, 5 kangourous et 2 baobabs, c'est une classe en termes logiques, hein. Il n'y a aucun souci, c'est très bien défini, ça n'est pas une espèce naturelle, ça n'est pas un groupe qui est ontologiquement fondé. En chimie, effectivement, des groupes ontologiquement fondés, c'est par exemple l'eau, hein, comme dit Kripke, H2O, tout ce qui est H2O, c'est de l'eau, ok. En biologie, c'est plus compliqué. La réponse de Hennig, ça va être qu'un groupe ontologiquement fondé, c'est un clade, alors ce qu'il appelle un clade monophylétique, c'est-à-dire un taxon, et une unité taxonomique et tous ses descendants. Par exemple, ici, en jaune, hein, vous avez un clade, qui comprend, alors c'est intéressant, il n'est pas intuitif, le crocodile et l'aigle. Hein. Le crapaud, il n'est pas dans le même clade. Vous ne pouvez pas avoir le crapaud, le crocodile et l'aigle, il faudra ajouter la sardine dedans. Hein. Tous les descendants d'un même ancêtre. Et à la fin, vous avez un clade défini par la présence de placenta, qui est ce qu'on appelle effectivement les mammifères. Alors, je reviens dans 2 secondes sur... Alors, effectivement, un clade se repère par un caractère que tous les individus dans l'arbre ont. Et donc, effectivement, alors ça s'appelle ici une apomorphie techniquement, mais peu importe. Donc là, la présence d'un amnios fait que, chez les femelles, fait que vous êtes un mammifère. Bon, mais c'est du moins là où la branche des mammifères se détache du reste. Hein, la forme du diaphragme et le braquet dans le diaphragme fait les dinosaures. Donc quand vous allez du tyrannosaure au poulet, tout ça c'est des dinosaures, parce qu'effectivement c'est un clade qui est défini par une certaine configuration d'un os au-dessus du diaphragme. Point quand même assez important, les clades recouvrent uniquement partiellement les espèces et les familles vernaculaires. C'est-à-dire que tous les biologistes s'amusent à dire les poissons ne sont pas un clade, sont pas un clade monophylétique, c'est pas un bon groupe. De même ici, les reptiles, ça marche pas parce qu'il y a les aigles dedans, si vous voulez. Alors, le point important ici, c'est qu'un individu, pourvu qu'il soit dans un clade, par exemple le clade des mammifères, il peut être n'importe quoi. Même si je n'ai pas d'amnios, même si je n'ai pas de mandibule, même si je n'ai pas de fenêtre mandibulaire, je peux être un aigle ou un crocodile, à condition que je descende des autres crocodiles. Donc, il faut descendre du premier porteur de synapomorphie pour être dans un clade monophylétique, c'est-à-dire pour être dans le groupe ontologiquement consistant. Et donc, être biologiquement identique génériquement, par exemple, être un mammifère comme les autres mammifères, c'est descendre du même ancêtre générique. Alors, effectivement, petite application, l'espèce humaine, par exemple, Homo sapiens n'est pas un clade monophylétique. Homo sapiens est une espèce, mais le clade contient Homo sapiens et Néandertal. Par contre, si vous voulez une famille plus grande, vous ne pouvez pas rajouter juste, comme le dessin en haut, juste Homo erectus. Il faut, effectivement... Il faut rajouter aussi, vous ne pouvez pas rajouter juste Homo habilis, il faut rajouter Homo erectus qui est dans le même clade. Il y a des grosses discussions sur savoir où est l'espèce humaine, mais il y a des contraintes sur cette discussion qui sont les clades. Alors effectivement, les clades sont emboîtés, les hominines, c'est-à-dire les chimpanzés et les hominidés, sont un clade, les hominoïdes, les hominines, tout ça, c'est des clades emboîtés les uns dans les autres. Bon. Alors, the genealogical boundaries of our species are extremely sharp, dit Hull. Ce qui compte, c'est les frontières généalogiques de l'espèce, pour parler d'espèce. Les frontières de l'espace de caractère sont très floues. Il y en a qui ont tel caractère, il y en a qui... Bien sûr, puisque la variation est première. Et donc, si on a une vision centrée sur les caractères, dit Hull, et c'est là où vous voyez pointer la question de la norme derrière, si vous voulez distinguer les espèces par les caractères, alors vous allez avoir des contorsions parce que finalement, vous avez les retardés qui n'ont pas les caractères qu'il faut, les dyslexiques, etc. Et puis, si vous avez assez de... Si, par exemple, si la rationalité est un de votre caractère, vous allez devoir inclure pas mal d'animaux, en fait, de plus en plus, selon non humains, selon les recherches aujourd'hui. Donc là, si vous voulez avoir des frontières sharp, claires, il faut penser en termes généalogiques. Alors, la conséquence de ça, c'est que Ghislaine et Hull, c'est une conséquence de plus, c'est que les espèces ne sont pas des classes. Les classes sont définies par des caractères qui permettent de dire si X est dans la classe ou n'est pas. Métaphysiquement, les espèces sont des individus. Et donc, les organismes ne sont pas des membres d'une classe, mais des parties d'un individu. Alors, il y a tout un tas de conséquences métaphysiques assez fascinantes à ça, mais si je caractérise la thèse de Hull plus généralement, les groupes objectifs, les genres naturels, c'est les clades monophylétiques. Ça, c'est, une fois que vous avez classifié, vous prenez un taxon et tous, mais seulement tous ses descendants, et vous avez... un clade. C'est les groupements biologiquement fondés. Seules les espèces sont des groupements biologiquement fondés qui sont aussi des individus du fait que les membres sont liés par la reproduction. Alors, je vais faire deux points dans ce qui suit, qui sont un peu mes thèses. Le premier point, il est que cette question-là, elle renvoie à la question, encore une fois, de l'identification, la caractérisation, les déterminations de l'espèce biologique. Elle renvoie à une ambiguïté, très exactement, à une dualité dans la biologie évolutive elle-même. Darwin dit, il y a deux thèses, common descent et sélection naturelle. Dans un texte fameux, 6e chapitre de Origin of Species, Darwin dit, il y a deux grandes lois de la biologie. Le principe des conditions d'existence, qui est c'est le principe de Cuvier, selon lequel tout dans un animal doit servir à sa viabilité. Et Darwin dit, ben ça, c'est ce que moi j'appelle la sélection naturelle, ça s'explique par la sélection naturelle. Et un second principe qui était défendu par Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui est l'unité de type, tout le monde se ressemble. C'est-à-dire que tous les animaux sont construits sur un type commun moyennant un certain nombre de transformations topologiques réglées. Cette unité de type, dit Darwin, ça, c'est la descente commune. Pourquoi ma main ressemble à la nageoire de la baleine qui ressemble à l'aile de l'aigle, parce qu'au fond, on descend tous du même vertébré et c'est le même organe chez le premier vertébré. Donc il y a ces deux notions. Darwin a une thèse dans ce chapitre, qui est la thèse orthodoxe, qui est que la loi la plus fondamentale, c'est la sélection naturelle. La filiation commune, c'est les dérivations de traits qui sont arrivés par sélection naturelle. Mais ça, ça donne une tension dans l'identification biologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les chauves-souris ont des ailes, les mouches ont des ailes, mais elles ne sont pas du tout pareilles, et structurellement, elles ne sont pas du tout pareilles. Pourquoi ? Alors pourquoi elles sont pareilles ? Parce que c'est des adaptations au vol. Donc c'est des résultats de la sélection naturelle. Il n'y a pas 50 manières de fabriquer des ailes. Si vous avez quelque chose en forme d'enclume, ça ne va pas trop voler. Donc effectivement, vous avez des ailes de libellule, des ailes de chauve-souris, des ailes d'oiseaux. Okay. Mais alors ça, c'est ce qu'on appelle classiquement une analogie. Les ailes sont pareilles du fait qu'elles résultent de pressions de sélection identiques. Ma main et l'aile de l'oiseau, elles n'ont pas trop la même fonction, il vaut mieux éviter, mais elles sont pareilles parce que common descent, elles proviennent du même ancêtre. Donc vous avez deux types d'identification, pensée, aile, et ça, ça va être fonctionnel, par analogie, pression de sélection commune, pensée, extrémité du membre antérieur des tétrapodes, et ça, ça va être ma main, la nageoire du barracuda, l'aile du colibri, etc. Il y a une ambiguïté là, parce que les deux types d'identification semblent relativement raisonnables. Et il y a les deux. Et de fait, alors, la thèse de Darwin, c'est que la sélection naturelle se subordonne à la descente commune. Mais Darwin est très clair aussi sur une chose, qui est que classifier, il ne faut pas regarder trop les adaptations. Parce que la sélection ne donne pas un critère robuste d'adaptation. Parce que c'est assez facile à comprendre. Imaginez que là, vous avez vos arbres. Imaginez que la sélection naturelle produise là une aile de mouche, là une aile de colibri. Si vous les identifiez, vous allez fusionner les deux branches. Vous allez en fait rendre l'arbre de classification illisible parce que vous allez avoir des points communs entre des branches extrêmement éloignées. Donc vous avez ces deux thèses très intéressantes dans Darwin parce qu'elles... elles vont ensemble, mais à première vue, pas trop. La sélection naturelle est le principe fondamental. Si vous voulez classer, il faut mettre de côté les analogies, c'est-à-dire ce qui est identique par identité de pression de sélection. Il faut tenir les deux ensemble. C'est comme si, quand vous voulez classifier les analogies, c'est-à-dire les similarités par pression de sélection commune, c'est un peu du bruit. Ça rend les arbres moins lisibles. Si vous réfléchissez à ce que c'est qu'une espèce, identifiée par sélection naturelle et analogie, identifiée par descente commune et homologie, ça donne finalement deux manières de penser l'espèce. Et donc ça donne une espèce d'antinomie. La première, qui est au fond assez naïve et qu'on trouve pas mal chez certains anthropologues ou en psychologie évolutionniste, c'est-à-dire que les adaptations caractérisent une espèce. Les adaptations, c'est ce qui résulte de la sélection naturelle. L'humain parle, le langage est une propriété nécessaire de l'humain, le langage est une adaptation, résulte de la sélection naturelle, c'est une propriété essentielle. La question est de savoir quelles sont les autres espèces qui ont du langage, etc. Donc, là, vous caractérisez, vous pensez sélection naturelle, adaptation. Ou alors, vous pensez en termes de généalogie, l'antithèse O, seul l'ancêtre commun caractérise une espèce, peu importe les propriétés. Être un cnidaire, c'est descendre, d'être dans le clade des cnidaires. Être un kangourou, c'est d'être dans l'espèce kangourou, c'est-à-dire descendre du premier kangourou. Vous avez un conflit entre les deux. C'est-à-dire que si vous caractérisez une espèce par les adaptations, de manière centrée sur la sélection, alors c'est bien, vous allez louper tous les variants, tous les individus qui sont variants. Les humains qui ne parlent pas, les oiseaux sans ailes, les autruches par exemple éventuellement. Les autruches, c'est un mauvais exemple, mais... Si vous caractérisez par les homologies, vous perdez la dimension écologique de l'espèce. Vous perdez, en gros, ce qui fait que, écologiquement, les oiseaux partagent certaines choses avec les chauves-souris et les mouches, par exemple. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que les deux manières de penser, de déterminer l'espèce, ont des bénéfices et des coûts épistémiques. Et l'ambiguïté dans la caractérisation de l'espèce renvoie dans l'ambiguïté profonde entre caractérisé par la sélection naturelle et caractérisé par la descente commune, filiation commune. Alors, si vous pensez en termes de ce qui caractérise l'espèce, c'est les adaptations, vous réintroduisez un type et vous réintroduisez, et c'était un peu mon fil directeur, une normativité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des, il y aura dans votre espèce des individus pas normaux. Et ça va aller avec les adaptations, avec l'idée que les adaptations sont des résultats de la sélection naturelle, donc sont des fonctions, donc posent une norme, et ce qui est une adaptation chez un individu peut dysfonctionner. Donc ça va avec une vision relativement adaptationniste de l'évolution aussi, hein, cette vision-là. Et c'est celle, encore une fois, qui est la plus courante en dehors de la biologie. Si vous pensez en termes de l'espèce déterminée par la généalogie, comme Hull, alors effectivement, vous en arrivez assez vite à penser que les espèces ne sont pas des classes, hein, puisque ce n'est pas défini par des propriétés nécessaires et suffisantes pour appartenir à l'espèce. Du moins des propriétés intrinsèques nécessaires et suffisantes. Mais ça correspond tout à fait à l'idée fondamentale du darwinisme que rappelle Hull ici. Hein. Si la théorie évolutionnaire a quelque chose à nous dire, c'est que la variabilité est au noyau de notre être. Alors, au noyau de notre être fait le lien, bien évidemment, avec cette question très générale de l'espèce et la question de la nature humaine. Il n'y a pas de nature humaine parce que la variabilité est au cœur de notre être. Et elle est au cœur de notre être, non pas parce qu'on a évolué, mais parce que c'est ça, une espèce biologique. C'est comme ça que l'espèce biologique doit être pensée. Parce que nous sommes une espèce biologique, la variabilité est essentielle à l'espèce biologique, les traits par lesquels nous nous caractérisons sont tels qu'ils peuvent varier, quelles que soient nos compulsions essentialistes. Donc si vous voulez, pour ramasser cette partie, puis après je dirai quelques mots sur la fin, mais pour ramasser cette partie, la nature humaine, ce serait la propriété. Ce qu'on entend par nature humaine, ce serait ce qui rend raison de l'appartenance à l'espèce comme classe. Si l'espèce est un individu, il n'y a pas de conditions nécessaires et suffisantes requises pour être dans l'espèce, hormis le fait d'avoir les bons ancêtres. Hein. Il n'y a pas de nature de l'espèce, donc il n'y a pas de normalité. En revanche, si vous pensez l'espèce comme un ensemble d'adaptations à partir de la sélection, là vous avez de la normativité. Et donc, la conclusion de cette partie, hein, si la détermination de l'espèce vient de la common descent, c'est ça qui caractérise une espèce, Hull a raison, alors que la normativité, vous avez la normativité, la naturalisation de la normativité, parce que vous pensez en termes de sélection, il n'y a pas de conflit entre la naturalisation des normes qui renvoie à la sélection naturelle et l'idée qu'il n'y a pas de nature humaine, hein, qui, elle, renvoie à la logique du concept darwinien d'espèce. Donc ça répond à ma question qui était, peut-on penser la naturalisation darwinienne sans le concept de nature humaine? La réponse est oui, hein, parce que la naturalisation renvoie à la sélection naturelle et les concepts d'espèce, eux, se pensent à partir de la common descent, de la filiation commune. Il se trouve que cette question de la nature humaine a été énormément reprise depuis 15 ans, à partir en particulier d'un article d'Edouard Machery, hein, philosophe à Pittsburgh. Et comme vous voyez, cet article a reçu pas mal de réponses, certaines de Tim Lewans, de Grant Ramsey, de Matteo Mamelli. Alors ça donne deux edited volumes, hein, celui édité par Machery et Downs, et celui plus récent édité par Tim Lewans et Beth Hannon. Et puis trois livres, une monographie d'introduction par Grant Ramsey, et puis le livre de Matteo Mamelli et le livre de Maria Kronfeldner, le livre de Kronfeldner faisant le lien avec des questions qui sont des questions, comme le livre de Mamelli d'ailleurs, qui sont des questions politiques qui dérivent de ce que je viens de raconter sur la normativité. Pourquoi est-on revenu sur la thèse de Hull? Pour une raison très simple, la psychologie évolutionniste. Parce que la psychologie évolutionniste se donne comme une science de la nature humaine. Donc s'il n'y a pas de nature humaine, ça pose un problème pour la psychologie évolutionniste. Le projet de la psychologie évolutionniste est de s'inscrire contre ce que Tooby et Cosmides, dans leur article des années 80, appelaient, même si personne n'est au courant que ça existe, le modèle standard des sciences sociales, lequel favorise la différence entre les cultures, et au contraire, d'expliquer, comme ils le disent dans ce papier plus récent, hein, d'expliciter ce qui est universel, l'universalité de la nature humaine, et comment finalement la variation génétique chez les humains se fond sur une nature humaine universelle. Alors je souligne un point intéressant qui est que les évolutionnistes en général n'aiment justement pas cette histoire d'unité de la nature humaine. L'évolutionniste, l'une des choses qui le motive très souvent, c'est d'expliquer la diversité. Ça explique le fait que quand vous parlez à des vrais biologistes évolutionnistes, de la psychologie évolutionniste, ils ne comprennent pas trop ce que ça fait, en fait. Parce que en fait, ils sont dans des mondes très différents. Mais ça, c'est juste un point rapide. Alors, je vais dire quelques mots sur la réponse d'Edouard, et puis j'en ai pas pour très longtemps, hein, je vous rassure. En fait, Edouard Machery fait une différence. Il dit « Hull a tout à fait raison ». On ne peut pas être essentialiste en biologie darwinienne, on ne peut pas être essentialiste depuis Darwin. Il n'y a pas de conditions nécessaires et suffisantes qui seraient des propriétés intrinsèques requises pour appartenir à, à l'espèce humaine, donc il n'y a pas d'essence humaine. Mais, dit-il, il y a quand même dans le darwinisme un espace pour penser une espèce de nature selon ce qu'il appelle une façon nomologique. La nature humaine est l'ensemble des propriétés que les humains tendent à avoir étant donné l'évolution de leurs espèces. Alors c'est intéressant parce que le « tendent à avoir », ça fait vraiment penser à Aristote. C'est quoi la nature de la pierre? C'est de tendre à tomber. Et au fond, c'est philosophiquement, on pourrait caractériser ce type de projet comme essayer d'avoir l'aristotélisme sans le coup. L'aristotélisme qui consiste à penser des natures sans le coup, qui consiste à, au fond, dès qu'on a une nature, on se retrouve à exclure ceux qui ne remplissent pas la nature en question. Alors, le projet plus précisément repose sur l'idée que les lois propres à telle espèce, basées sur l'évolution de telle espèce, par exemple les lois qui régissent la recherche de partenaires chez le gorille, les lois, alors on peut discuter longuement sur le terme de loi, mais il le prend en termes assez lâches, les lois qui par exemple font que la fourmi va passer telle pourcentage de son temps à chercher des ressources et tel autre pourcentage de son temps à, entre guillemets, défendre la fourmilière. Ces lois rendent possibles des propriétés qui sont des propriétés métaphysiquement dispositionnelles. C'est le point très important. C'est-à-dire que dans tel compte, typiquement, une abeille, si vous la nourrissez de telle manière, ça va être une reine. Ça va être une ouvrière. Si vous mettez beaucoup plus de gelée royale, ça va être une reine. Même génotype. Alors, ça s'appelle plasticité, disent les biologistes. C'est une propriété dispositionnelle. L'abeille elle-même ne change pas catégoriquement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que pour la nature humaine, le gros argument des anti-psychologies évolutionnistes, c'est Marcel Mauss. Regarde, les Chinois mangent avec des baguettes, nous mangeons avec des fourchettes, les Éthiopiens mangent avec les mains, la variation est partout. Et le recours à la propriété dispositionnelle ici est fondamental parce que ça permet de dire oui, mais on a tous les mêmes adaptations, sauf que dans tel contexte, ça va donner telle forme de, par exemple, telle forme de système de parenté, dans tel autre contexte, tel autre système de parenté. Par exemple, quand les life is short, brutish and harsh, les gens, l'état hobbesien de base, les gens vont pas être en termes de relations d'amitié et de partenaires sexuels, pas les mêmes qu'en 2025 en France. Mais ils expriment de manière différente un même setup adaptatif. Alors, l'autre point important, c'est qu'on parle de loi et pas de normes. C'est-à-dire que, il ne va pas y avoir d'anormalité fondamentalement, on va penser la nature humaine à partir de l'ensemble des lois qui dérivent de la biologie évolutive et en particulier de l'évolution par sélection naturelle qui est le cœur explicatif de la biologie évolutive et plus précisément de ce qui s'appelle l'écologie comportementale qui concerne les comportements et les traits des organismes et pas les gènes. Alors, néanmoins, en effet, les lois comportent une référence nécessaire à la sélection naturelle puisque, encore une fois, on parle en termes d'écologie comportementale, et l'écologie comportementale, c'est la science des traits des animaux comme des adaptations. Je passe le dernier point, mais... Donc, si on pense comme ça, on a deux présuppositions. Le dispositionnalisme, on va penser qu'on ne cherche pas des propriétés catégoriques, on cherche des propriétés dispositionnelles. Ça permet de réconcilier l'universalité de la nature humaine avec le fait que toutes les cultures sont très différentes. Et on est adaptationniste parce que, au fondement de la psychologie évolutionniste, l'esprit est une somme d'adaptations, généralement pour les psychologues évolutionnistes, advenues au Pléistocène. Donc, effectivement, comme je vous disais, l'enjeu, c'est garder la nature humaine sans l'aristotélisme minimal, sans la normalité, sans l'uniformité. Et ça va être mon dernier point, alors un tout petit peu plus technique. C'est, au fond, la grosse question philosophique, c'est quoi ? C'est comment on pense des régularités qui peuvent donner des normes et qui peuvent donner des natures dans des contextes populationnels. Alors, je vais faire un retour en arrière. Je suis quasiment à la fin de l'exposé. Vous connaissez peut-être tous le plus célèbre belge après Stromae et Jacques Brel, Quetelet. Et donc, Quetelet a écrit dans son mémoire sur l'homme, c'est l'un des premiers statisticiens à avoir donné cette idée d'homme moyen. Bon. Donc, il prend dans les registres militaires des Belges les tailles de tous les conscrits et puis il fait des graphes. Et puis de ces graphes, il voit que ça donne des gaussiennes, une distribution normale. Bon. C'est pas rare dans la nature les distributions normales, c'est normal. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment interpréter ça. Et il y a deux manières de l'interpréter, et c'est le point, si vous voulez, un peu formel, qui me semble être au cœur de cette question de penser la nature humaine sur la base d'un savoir biologique darwinien qui est intrinsèquement populationnel, donc probabiliste. Donc voilà, on a une courbe normale, un écart type, une moyenne, ok, c'est la norme et la taille de la population, et dit Quetelet, l'interprétation est intéressante, la moyenne dit la norme, dit ce qui est normal pour la population. Et Quetelet va penser en termes de force essentielle et de perturbation. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, il va dire au fond, il y a une force essentielle qui est l'essence de l'humain, qui lui fait mesurer 1m75. Et puis il y a tout un tas de perturbations annexes qui vont, dans son développement, faire qu'il aura des tailles un peu différentes. Et puis, quand on va... Mais néanmoins, si on fait des statistiques, on peut lire la force essentielle et ce à quoi elle tend. Ce à quoi elle tend, c'est la moyenne, l'homme moyen, dit Quetelet. Donc, c'est une interprétation essentialiste de la statistique, en fait. On peut lire les essences sur les moyennes, sur les distributions gaussiennes. Autrement dit, d'ailleurs, philosophiquement, ça peut passer pour une interprétation probabiliste de l'idée aristotélicienne de nature, tendance à mesurer 1m75, plus ou moins empêchée par les aléas de la vie. Alors, il se trouve que c'est faux. Il se trouve qu'en fait, on n'a pas besoin de ça pour comprendre les dispositions gaussiennes et on n'a pas besoin de ça pour comprendre les dispositions gaussiennes pour des raisons mathématiques qui sont qu'au fond, quand vous agrégez quelles qu'elles soient des distributions, avec une moyenne et une moyenne et un écart type donné, vous pouvez même faire, en fait, vous pouvez relaxer la chose et même juste vous agréger beaucoup de distributions, vous obtenez une gaussienne. Donc vous n'avez pas besoin d'informations, vous n'avez pas besoin de supposer qu'il y a des forces essentielles et des forces pas essentielles. Le simple fait d'agréger des processus, des variables aléatoires avec une moyenne et un écart type donné, c'est-à-dire en gros des processus aléatoires agrégés, vous allez avoir une gaussienne. Vous n'avez pas besoin de supposer une force essentielle, vous n'avez même pas besoin de supposer des lois de la nature à l'œuvre en fait. Vous n'avez même pas besoin de pouvez par exemple superposer des mouvements browniens, vous allez avoir une gaussienne. Ce qui veut dire que la gaussienne elle-même, la distribution normale, ne vous dit rien du tout sur des essences, des tendances, une force essentielle, une cause principale et une cause annexe. Ce qui veut dire que une nature humaine qui serait l'équivalent pour Machery, bon, il m'égorgerait si j'étais là, mais l'équivalent pour Machery de l'homme moyen pour Quetelet, une nature humaine définie nomologiquement n'est pas épistémologiquement requise pour donner sens aux régularités observées, c'est-à-dire à vos statistiques, à votre courbe gaussienne. Vous pouvez, si vous voulez, penser à une nature humaine, mais si vous voulez être parcimonieux, vous n'en avez pas besoin. Alors, c'est un argument que je vous donne là, s'il y a des gens qui ont des objections, peut-être que vous aurez complètement raison. Là, il y a beaucoup de choses dont je parlais et dont j'étais sûr, à peu près sûr, parce que je reconstituais un peu des arguments. Bon, là, moi, il se trouve que c'est très lié à deux choses sur lesquelles, en fait, je travaille moi-même. La première, qui est le débat qui existe aujourd'hui entre la nature de la sélection naturelle, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est simplement un agrégat statistique. Et l'un des, alors c'est défendu par Denis Walsh, Tim Lewans dont j'ai parlé, et André Arieff. Et André Arieff est l'auteur d'un article sur Galton et Ketley où il a des arguments qui vont tout à fait dans le sens que j'essaye d'avancer là, même s'il passe pas par le théorème de limite centrale. Donc, et le travail de André Arieff montre que quand on passe de Darwin à la génétique des populations, c'est-à-dire au cadre probabiliste statistique explicite, en effet, toutes ces histoires de tendances, de normes, de tendances, de forces essentielles, de présupposés, de régularités nomologiques sont inutiles. Et c'est très lié aussi à un second point, alors là, je vous embête pas avec ça, qui est la légitimité d'explication, ce que j'appelle structurale, c'est-à-dire qui ne renvoie pas à des processus causaux. Alors, je conclue, désolé d'avoir été un peu long, mais je ramasse ce que je disais, hein. Donc, l'entreprise de naturalisation fondée sur la biologie évolutive, et vous avez remarqué que je ne me suis pas prononcé sur le succès de cette entreprise de naturalisation, un petit peu fait ailleurs, mais pas là, ne requiert pas une nature humaine. Enfin, si, en deux mots, la question n'a pas de sens, ça dépend de quelle tentative de naturalisation dont vous parlez. Mais ça ne requiert pas une notion de nature humaine, je pense que Hull a tout à fait raison là-dessus. Et je pense que ça ne requiert pas une nature humaine du fait de l'écart entre le principe de la naturalisation, qui est, comme dans le cas de la téléosémantique, de renvoyer les normes à la section naturelle, et le principe de la disqualification du concept d'espèce, qui est de mettre en évidence que ce concept d'espèce est fondamentalement généalogique et non adaptatif, sélectionniste. Ou la notion de nature humaine non essentialiste, donc celle d'Edouard Machery, hein, et un peu de Grant Ramsey, requiert seulement ce qui est nomologique. Certes, elle n'est pas aussi normative que ce qu'on a toujours entendu par nature humaine, et donc elle échappe à beaucoup des objections de David Hull, en particulier parce qu'elle parle de loi et non pas de normes, et donc elle pose la question de la normativité très différemment. Néanmoins, il me semble qu'elle commet ce que j'appelle pompeusement le sophiste de Ketley, qui est de lire trop, de lire dans les distributions gaussiennes trop de choses. Autrement dit, pas plus que la philosophie classique, si tant est que le mot veuille dire quelque chose, la biologie évolutive ne fonde une notion de nature humaine, et pour conclure, même si cela ne grève ni les projets naturalistes, ni les explications naturalistes adaptationnistes locales, c'est-à-dire adaptation, explication adaptationniste de quelques traits de la psychologie, hein, des psychologues et des anthropologues darwiniennes. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.